Et oui, donc, comme chaque premier samedi du mois, entre midi et 13h, c'est le magazine Ondes de Chine. Aussi, vous pouvez retrouver toutes les émissions Ondes de Chine sur le site www.ondesdechine.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec des étudiants chinois qui sont en France depuis peu de temps. Donc, on va avoir l'occasion de les écouter présenter leur première expérience de la France. D'autres nous rejoindront pour parler de leur expérience aussi, de voyages qu'ils ont fait en France et en Hollande. Nous allons parler aussi dans cette émission de littérature, donc d'un roman notamment, et puis de poésie. Et à midi et demi, un rendez-vous avec l'Académie nationale de peinture de Chine qui organise une exposition à Paris, et nous aurons l'occasion d'interviewer le président de la Maison des artistes et donc membre de cette Académie nationale de peinture de Chine à midi et demi dans cette émission par téléphone. Bonne écoute de Radio Campus 106,6 FM. Ils sont venus nombreux. On va commencer avec certains d'entre eux qui vont nous parler de leur arrivée en France il y a 3 mois et demi environ. Ces étudiants sont actuellement en formation de langue française à la Maison des langues de l'Université de Lille. Et d'ailleurs, je salue toute l'équipe de cette Maison des langues qui fait un travail formidable. Donc là, ils démarrent leur apprentissage du français, on va dire, et leur connaissance d'une manière globale de la France et de, on va dire, l'Europe de l'Ouest. Donc j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord 3 étudiantes et étudiants.
Je m'appelle Wei, bonjour. Je suis arrivée à Lille depuis 4 mois. J'ai eu beaucoup de problèmes au début. Heureusement, les habitants à Lille sont gentils. Mes camarades m'aident, puis les professeurs me donnent les consciences. Donc, je m'habitue à la vie en France, oui. La pollution en Chine est plus forte qu'en France. Il y a de nombreux arbres dans l'université. Je peux aspirer l'air frais. Ma chambre en France est un peu petite. La surface est de 9 mètres carrés et je dois étudier et dormir ici. Ma fenêtre me donne sur un parc aussi. Le paysage est magnifique. La climat en France est très différent qu'en le climat en Chine. L'île a le climat changeant et il fait très chaud dans mon lieu de naissance, mais je dois habiller Moi, je vais à Lille.
Bonjour, je m'appelle Li He. Quand je suis arrivée en France le premier jour, j'ai trouvé beaucoup de différences entre la Chine et la France. La France se trouve dans une latitude plus haute que la Chine, en Chine, ainsi de la longueur de jour et de nuit est plus grande que la Chine. Et France se trouve dans une condition différente. Ainsi, la végétation de France sont très différentes. Et dans le domaine de construction, les Français préfèrent les bâtiments bas. Et je peux admirer la beauté des plaines partout. Quand j'étais en Chine, il y a beaucoup de cuisines très délicieuses. Maintenant, je peux goûter les plats en France aussi. Il y a beaucoup d'avantages sur acheter des choses pour santé à France. Et je vais faire un plan pour se aider cette semaine avec mon ami. On a envie de chercher un petit travail. On a aussi envie de voyager dans l'Europe cet été. Je pense qu'un petit travail et voyage peut améliorer notre oral.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Tong Hui Si. Les filles ont déjà nous raconté presque de tout. Mais moi, le différent de la France, le premier, la chambre de la France, pour moi, je pense que c'est le plus grand que la Chine, parce qu'en Chine, nous sommes vécus avec. Avec six camarades dans la chambre, il fait presque 20 mètres carrés. Mais dans la France, je pense que le plus différent, c'est l'alimentation. Les légumes de la France sont plus cher que Chine, que les légumes en Chine, mais c'est un peu différent de la Chine. Et moi je cuisine dans la chambre parce que ça fait moins cher. Le premier jour quand je suis arrivé en France, en Chine, les jours quand je suis arrivé en France, en Chine c'est très froid, mais dans la France c'est plus chaud que la Chine. Et dans un jour, il y a différentes temples dans l'île. C'est très étranger que Chine. Je ne veux pas, le premier jour quand je suis arrivé en France, que je suis arrivé dans l'île, il a plu le matin et puis il a neigé après-midi. C'est très, très bizarre.
Oui, tout à fait. Oui, on faut s'habituer au temps qui change comme ça. Hein. On appelle ça un temps variable et un climat, on va dire, tempéré. En France, en Chine, il y a des grands contrastes aussi entre les provinces, bien sûr. Vous êtes sur Campus 106 FM, l'émission Onde de Chine, comme chaque premier samedi du mois, entre midi et 13h. On se retrouve dans quelques instants avec de la littérature. Sur 106.6 FM, www.campusil.com.
Je suis en train de me faire un peu de temps.
Voilà, dans Indochine, petite séquence littérature avec tout d'abord un roman qui nous est présenté par...
Je m'appelle Wei. Je vais vous présenter un livre ancien qui s'appelle « Histoire d'une pierre ». C'est un livre très connu étant quatre chefs d'œuvre en Chine. Malheureusement, c'est un livre inachevé. Cet livre fait une description vivante de la vie de la noblesse féodale. La famille est grande, riche et bourrée. L'histoire est très compliquée. Il y a 956 personnages dans le livre. À la fin, les membres de la famille sont en partie dispersés et en partie morts. Pourquoi j'aime le livre? Premièrement, c'est une documentation pour découvrir la vie sociale de dynastie Qing. On a connaissance de l'alimentation, de l'économie, des vêtements, des bâtiments anciens, etc. Deuxièmement, la valeur de littérature est molle. Les rôles principaux sont prédiantes. Il organise un cénacle poétique. La littérature est très importante pour se faire des relations, pour s'amuser, pour les obsèques, etc. Donc, il y a beaucoup de poèmes, élogues funèbres, articles. C'est très intéressant. Troisièmement, les descriptions de personnages sont vivants et l'intrigue du livre est très bien construite. La littérature utilise différentes langues, différentes physionomies, différents mouvements, différents habillements pour créer des caractères typiques. Il y a beaucoup de buts de rôle et l'auteur n'a pas décrit beaucoup pour se présenter. Mais on peut simplement trouver la différence entre les personnages. Je vais vous lire un passage de le roman.
刘姥姥便站起身来，高声说道：老刘，老刘，食量大如牛，吃个母猪不抬头。说完，却鼓着腮帮子，两眼直视，一声不语。众人先还发怔，后来一想，上上下下都一起哈哈大笑起来。湘云掌不住，一口茶都喷了出来。黛玉笑岔了气，扶着桌子直叫：“哎呦！”宝玉滚到贾母怀里，贾母笑得搂着叫：“心肝。”王夫人笑得用手指指着凤姐儿，却说不出话来。薛姨妈也掌不住，口里的茶喷了探春一裙子。 探春的茶碗都合在迎春身上，惜春离了座位，拉着她奶母叫揉揉肠子，地下一个无不弯腰屈背，也有躲着出去蹲着笑的，也有忍着上来替她们姐妹换衣裳的。C'est à dire la femme âgée qui s'appelle Liu Supplaçante. Les membres de la grande famille sont stupéfaits. Ensuite, toutes les personnes rirent au éclat. Les noblesses sont stupéfaits parce que le rire est dur. Ils ne peuvent pas parler ou plaisanter pendant déjeuner.L'odeur est fort en décrire. Xiang Yun est d'une fille franche, donc elle ne veut pas se contrôler et elle raille du dé. Tai Yu est fragile, elle rit et puis elle a un point de côté. Bao Yu est embrassé par Jia Mu. Jia Mu rit et dit « Mon cher ». Bao Yu est un petit fille de Jia Mu. Jia Mu est la chef femme de la famille. Donc, on peut savoir que Bao Yu a une position importante dans la famille. Il y a aussi des descriptions de Madame Wang, Tante Xue, Tan Chun, Xi Chun et les domestiques. Il est très difficile de présenter en français pour moi. En somme, les différentes personnes sont différentes. On peut savoir les positions, le caractère, l'âge du personnage. Bao Chai, Dai Yu, quelle fille est-ce que vous préférez? C'est une très commune et intéressant problème en Chine. J'aime le personnage Dai Yu. C'est d'une première rôle fatale. Sa mère et son père meurent. Elle n'a pas de frères et sœurs. Puis elle est une fille. Elle ne hérite pas des biens. Elle doit vivre aux dépens de grand-mère maternelle Jia Mu. Elle est pure et perçante. Elle a constance, amour. Donc elle exigeante à Bao Yu. Malheureusement, Bao Yu a tiré beaucoup d'attention de filles. Il aime Dai Yu, mais il est gentil à toutes les filles. Dai Yu n'avrait de Bao Yu. Elle est intelligente et a une haute dignité de vie. Elle s'adoue pour devenir bienvenue, mais elle n'a pas fait ça parce que le social est pourri. Sa pensée est en rupture avec la société. Elle est bédiante et écrit des œuvre littéraire. Au contraire, elle est une radée dans la vie à ce moment-là. J'aime son talent, son caractère, son parcours, sa mode de vie. L'histoire d'une pierre est écrite en chinois ancien. Quand j'aidais une élève de l'école primaire, j'ai aidé intéressant à ce roman. Mais il est très compliqué et je comprends rien. J'ai lu 2 pages, ensuite je me suis endormie. Enfin, de pied de l'école secondaire, ma mère ne me permet pas de regarder la télévision, aller sur Internet, aller au cinéma. Je travaille. Je veux seulement lire les romans pour se détendre. À ce moment-là, l'histoire d'une pierre est le meilleur ami. Il écrit un monde coloré pour moi. J'espère que vous pouvez aimer ce livre.
Merci, oui. Voilà, vous écoutez Ondes de Chine sur Radio Campus 106,6 FM. Dans un instant, nous allons retrouver Rémi Aron, qui est président de la Maison des Artistes, membre de l'Académie Nationale de la Peinture de Chine, pour une exposition qui aura lieu à Paris du 14 au 30 juillet. Voilà, donc si tout se passe bien, nous retrouvons Monsieur Aron. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, donc on se retrouve pour parler d'un sujet important, puisque c'est assez rare d'avoir autant d'œuvres d'artistes chinois vivants présentées en France.
Oui, c'est une exposition qui va avoir lieu, comme vous l'avez dit, au Palais Brongniart à Paris, du 13 juillet prochain jusqu'au 30. C'est une exposition vraiment exceptionnelle qui va réunir des œuvres de peinture à l'huile, puisque c'est la section de peinture à l'huile de l'Académie nationale de peinture de Chine qui va présenter à peu près 150 tableaux qui vont représenter à peu près toute l'histoire, si on peut dire, des générations vivantes de la peinture à l'huile en Chine.
Voilà donc une grande exposition. Qui a fait le choix des œuvres qui seront présentées? Des artistes, bien sûr. Est-ce qu'on peut donner quelques noms? Est-ce qu'ils sont tous aussi célèbres en Chine? Ou est-ce que...
Alors, les artistes qui vont être présentés, comme je vous l'ai dit, vont représenter plusieurs générations, dont les plus historiques et des grands peintres chinois comme Zhang Jianjun ou Zhonghan, qui sont des peintres de la génération qui ont fait déjà école en Chine, et puis des plus jeunes comme Zhang Peichu, qui sont des peintres de peinture à l'huile très réputés en Chine.
Excusez-moi.
45 membres de l'Académie. Et 15 peintres qui ont été sélectionnés par l'Académie comme devant participer à cette exposition pour représenter ce qu'est la peinture à l'huile en Chine aujourd'hui.
Est-ce qu'actuellement en Chine, pour les peintres, j'allais dire actuels, contemporains, il y a beaucoup d'écoles, de mouvements différents de peinture?
Eh bien, écoutez, cette exposition à Paris va être un moment important parce que c'est une exposition rare. Je crois que c'est la première fois que l'Académie souhaite se manifester en dehors de Chine avec un ensemble aussi important. Et nous aurons donc une présentation assez large de ce qu'est la peinture à l'huile en Chine, comme je vous l'ai dit.
Alors, je rappelle que vous appelez Rémi Aron, vous êtes président de la Maison des artistes et membre de l'Académie nationale de la peinture de Chine. Comment on devient membre de cette académie?
Alors écoutez, c'est assez exceptionnel puisque nous avons été quelques artistes français, quatre en l'occurrence, en mars 2014, à être faits membres de cette académie, comme premier correspondant, si on peut dire, étranger de cette académie de peinture. C'est une ouverture de la Chine, parce que cette académie de peinture a une importance très grande en Chine, puisque les artistes qui la composent sont non seulement des artistes reconnus, très reconnus en Chine, mais en même temps, ils s'occupent de l'enseignement dans les écoles d'art, ils s'occupent de la direction des musées. Comme vous le savez, en Chine, il y a un grand nombre de musées pour présenter la peinture vivante et dans toutes les provinces de Chine et dans toutes les villes. Il y a des écoles des beaux-arts extrêmement vivantes et donc tous ces artistes sont impliqués dans la vie culturelle et je dirais dans les politiques culturelles de la Chine.
Donc cette exposition aura lieu du 14 au 30 juillet, elle s'appelle Résonance, donc peinture à l'huile chinoise contemporaine, ça se passe au Palais Brongniart. Comment vous avez trouvé ce lieu? Comment vous avez pu l'aborder?
Ce lieu, ça, d'abord, c'est un lieu très central. C'est un lieu qui est prestigieux, puisqu'il y a déjà quelques grands salons qui ont lieu, comme vous le savez, le salon du dessin, d'autres salons très importants comme celui-là. Et puis, c'est un bel endroit qui va être très bien agencé avec une belle scénographie. Et donc, ce sera un écrin pour cette peinture qui va, j'espère, attirer un public français, voire européen, pour venir la voir.
Est-ce qu'il y a un moment pour rencontrer certains de ces artistes au Palais Brongniart ?
Alors, un colloque est prévu le 13 juillet. Certains artistes, la délégation sera assez importante qui viendra accompagner cette exposition. Et le 13 juillet, il y a un colloque qui est prévu avec les artistes et certaines personnalités françaises. Les artistes seront là, en tout cas, une partie pendant la première semaine de l'exposition, en tout cas. Et on pourra certainement les rencontrer.
Donc on imagine que cette exposition à Paris, c'est un événement, j'allais dire, non seulement français, mais international, et que cet événement peut-être pourra donner l'idée à d'autres pays, pourquoi pas, de faire tourner cette exposition ?
Eh bien, on peut l'espérer, c'est dans cet esprit, et nous sommes d'ailleurs, je dois dire, très heureux que l'Académie et la Chine aient choisi Paris pour présenter cette première étape de l'exposition.
Bien, merci Rémi Aron. Donc, on se donne rendez-vous à partir de cette date que nous vous avons présentée à Paris, le 14 juillet, et jusqu'au 30 juillet, l'exposition donc Résonance peinture à l'huile chinoise contemporaine, organisée par l'Académie nationale de peinture de Chine et la Maison des artistes aussi, on peut la nommer.
Oui, c'est pas la Maison des artistes qui l'organise, mais
oui, participe.
Elle y participe bien volontiers.
Membre associé. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt à Paris alors.
Merci monsieur.
Je vous en prie. Et oui, vous écoutez Ondes de Chine, c'est une émission en direct avec des gens en direct qui sont dans le studio, qui sont aussi à l'extérieur, qui interviennent par téléphone. Merci, un grand merci hein, donc à Rémi Aron. On va retrouver d'autres étudiants qui viennent de s'installer pour parler d'autres sujets. On va parler voyage, on va parler de la France aussi, de la Hollande. Voilà notre pays assez voisin et on est très heureux d'avoir toute cette richesse de l'Europe de l'Ouest à la disposition des étudiants chinois avec vraiment cette proximité par rapport à la Chine qui est très grande. Nous, on peut avoir beaucoup de choses de proximité, on va dire. Alors, on va les présenter.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Fan et je vais vous présenter mon voyage en France ou l'autre pays avec mes camarades Juan et Shenzhen.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Shenzhen, enchanté, et je suis très heureux de pouvoir visiter le Radio Campus 106.6 et je vais vous présenter le voyage de Pays-Bas, oui, je suis vraiment français.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean. Je pense que le temps en France est changé facile, mais les gens en France sont sympathiques et je suis souvent sortie à petit voyage. Aujourd'hui, je vais présenter les petites choses dans ma voyage.
Donc, on va commencer par toi, puisque tu as le micro. Tu es allé où ?
Je suis allé à Hollande et Paris.
Alors, tu veux parler de quoi en premier ?
Hollande.
La Hollande, oui.
Oui, le 2 avril, je suis allé en Hollande dans la ville Amsterdam avec mes amis. C'est une ville de canaux. C'est très joli. D'abord, nous sommes allés au marché qui vend les lotus de toutes les couleurs. Je pense que les fleurs nationales de la Hollande sont très jolies.
Les tulipes.
Tulipes, oui.
Oui.
Oui, je pense aussi la tulipe et le plus fameux en Pays-Bas du monde. Et je suis très heureux de visiter le jardin de tulipes. Et je pense que la plus intéressante chose, je pense, c'est le canal. Et il y a beaucoup de bateaux sur le canal et c'est très intéressant.
Oui, c'est ça exactement. Le champ de fleurs est très joli. Et je suis allé au quartier rouge aussi.
C'est très joli aussi.
je n'ai jamais vu en Chine ou l'autre pays.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que c'est intéressant en Chine.
Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai visité aussi, mais je n'ai pas entré.
Voilà, donc on peut reparler de ces champs de tulipes magnifiques à perte de vue. Hein. Ça, c'est impressionnant à voir et c'est l'époque encore, peut-être maintenant, ça se termine là, je pense, c'est
oui,
fini.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc un moment important pour vous de découvrir ça?
Je suis allé au mai et quand j'étais en Pays-Bas, c'est le moment d'ouvrir le jardin de tulipes. Je suis très... j'ai de la chance. J'ai de la chance.
Il a fait un peu beau ou pas ce jour-là?
Oui, c'est beau aussi, mais il a fermé dans une semaine.
Donc, des moments importants. En Chine aussi, il y a de grands jardins. Hein. On peut peut-être dire les jardins chinois. Tu peux dire quelques mots sur les jardins chinois? Par rapport aux jardins français, par exemple, si tu as pu voir la différence.
Oui, en Xi'an, il y a les parcs qui s'appellent Xianqun Park, et il y a beaucoup de tulipes et beaucoup de couleurs. C'est très joli.
C'est vrai.
Oui, c'est ça. Et il y a aussi beaucoup de parcs dans ma région aussi. Et il y a beaucoup de oiseaux et les animaux. Oui, c'est...
Quelle région?
La Zhejiang Province, il est situé en est de la Chine.
Voilà, est un peu au sud.
Oui, sud, est, sud de la Chine.
Voilà.
Je viens de province du Jiangsu, c'est très joli. Et il y a beaucoup de parcs et jardins avec beaucoup de fleurs. Le champ de fleurs est... grand aussi, comme à Amsterdam, j'aime beaucoup, c'est super.
Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie différence, bien sûr, entre les jardins à la française, voire même à l'anglaise, et puis les jardins en Chine. Les jardins en Chine ne sont pas, comme en France par exemple, avec des formes géométriques, etc., mais sont plutôt faits pour surprendre les gens. Quand on vient dans le jardin, dans le parc, à chaque fois qu'on fait 10 mètres, le paysage change.
Oui. Beaucoup de personnes vont au parc pour se détendre. Et la plupart de personnes sont vieux et âgées. Oui. Mais aussi les jeunes vont au parc pour parler avec la personne âgée.
Et puis, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est que souvent dans les parcs, il y a des gens qui viennent pour chanter ou faire de la musique, surtout à Xi'an,
oui,
notamment.
Et danser aussi.
Et danser, oui. Donc c'est, et même faire des arts martiaux aussi, oui, chinois. Hein, ouais. Ça, en France, on ne voit pas encore beaucoup ça. Hein. Les gens viennent, ils passent, puis ils sortent. Bon, ils font un petit... Peut-être ils mangent un peu, ou, voilà, mais il n'y a pas cette ambiance, on va dire, dynamique hein, des oui. parcs en Chine.
Comment mes parents vont au parc pour danser souvent Je pense que c'est bon pour santé et ça leur plaît, je pense.
Bien sûr, on peut aussi écouter de la musique traditionnelle dans les parcs chinois.
Oui, il a dansé avec la musique, mais c'est populaire, musique.
Voilà, mais à Xi'an, par exemple, dans les parcs, il y a beaucoup d'instruments anciens, des gens qui viennent jouer encore ou chanter l'opéra de Shanxi. Ou de...
Oui, c'est ça.
Donc voilà, on a. Est-ce que vous avez encore des choses sur Paris, par exemple? Est-ce que vous êtes allé à Paris déjà?
Oui. Je pense que les desserts au Paris est très délicieux.
Les desserts.
Desserts.
Ah, bien sûr. Et les bâtiments, les rues, les quartiers de Paris.
Je suis allé à Paris le mois dernier et. Quand je suis arrivé à Paris, je suis allé au Champ de Mars à côté de la Tour Eiffel. Mm-hmm. Et c'était la première fois que je voyageais de mes propres yeux. Quand j'ai regardé la Tour Eiffel, j'ai eu le sentiment que ce n'est pas vrai. Parce que la Tour Eiffel me donnait la certitude que je suis vraiment arrivé en France.
Est-ce que tu as eu l'impression qu'elle avait la taille que tu imaginais avant d'aller à Paris?
Peut-être...
tu la voyais plus grande ou petite au départ avant d'aller là-bas? Tu imaginais comment?
C'est plus grand que j'ai imaginé.
Ah oui. Tu es monté dedans? Tu
as grimpé? J'ai monté la Tour Eiffel.
À pied ou avec l'ascenseur?
le paysage est très joli et je peux voir tout de Paris.
Mm-hmm. Voilà. Donc, vos prochains voyages, vous pensez aller où, par exemple?
Peut-être je vais aller au parc. À Paris pour autrefois,
oui.
Parce que c'est très joli et je vais faire les courses en Paris.
En revanche, je suis allé au Paris aussi, mais je pense que la Lille est mieux que Paris.
Oh, trop gentil. Il est sympa. Hein?
Parce que quand j'étais en Paris, je trouve que la plupart des personnes sont chinoises.
Ah oui?
Dans la rue.
Oui, dans la rue.
Oui, vraiment. Et la pollution est plus beaucoup que la Lille. Oui, je pense que
oui,
c'est ça.
En général, oui.
Parce que comme il y a beaucoup de voitures et la ouais. Personne.
Mais là, aujourd'hui, tu peux y aller. Hein. Il n'y a plus de pollution. Il pleut énormément. Oui. Toute la pollution est tombée avec l'eau.
Oui, c'est ça.
Par contre, ça commence à être difficile de pouvoir aller vers la Seine maintenant, puisque la Seine monte. Hein, tu sais, le niveau d'eau a beaucoup grimpé là, avec les pluies énormes qui sont tombées sur la capitale.
Oui, d'accord. Mm.
Donc, tu as bien fait d'y aller il y a un mois. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins drôle d'aller dans le centre de Paris. Hein. Mm. Mais ça revient. C'est Paris au mois d'août, je vous conseille.
Oui,
c'est très
merci.
Beau, il n'y a plus personne. Il y a beaucoup d'étrangers hein, qui viennent au mois d'août. Les Parisiens partent en vacances. Il y a de la place pour tout le monde là, hein, vous pouvez y aller. Et puis, je vous conseille aussi d'aller en Belgique, hein, oui. À Gand, pour les fêtes de Gand, à partir du 18 juillet. Ça dure une semaine.
Oui.
Profitez-en, c'est vraiment la porte à côté.
Oui, je vais les visiter.
Voilà, on se retrouve donc dans quelques secondes avec de la poésie chinoise. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission de Chine comme chaque premier samedi du mois entre midi et 13h. Bonne écoute et bon appétit si vous êtes à table. Voilà, séquence poésie chinoise et l'on retrouve...
Bonjour, je suis Li He. Je vais vous présenter un genre de poème de la dynastie du Song. Ils sont très magnifiques à l'utilisation des mots et des rythmes quand on les lit. Les poètes réfléchissent beaucoup pour choisir des mots exquis. Des phrases sont rimées pour faire entendre le rythme.C'est une nouvelle chanson dans la corpe de la poésie. C'est la plus grande réussite dans la dynastie du Song. Les poèmes de la dynastie du Song divisés en deux parties. Ce sont la partie de dégager dans ses manières et la partie de gracieux et réservé. Les thèmes sont concentrés dans la cour de la solitude.L'amour, la douleur sur la destruction de certaines régions. Je vous présente une phrase très connue des poèmes de la dynastie du Song. « 竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一蓑烟雨任平生。» C'est une phrase qui amène du poète Shu Shi, qui est très connu dans la dynastie du Song.Il appartient à la partie de dégager dans ses manières. Dans cette phrase, Zhu Zhang, c'est le sens d'une gaine. Meng Xie, c'est le sens des chaussures en tige. Qing, c'est le sens de léger. Shen, c'est le sens de plus. Ma, c'est le sens d'un cheval. Combine ces mots.Le sens de la phrase est « marche avec une canne et des chaussures en tige » est plus léger que monter à cheval. Dans cette phrase, le poète a utilisé le mot « léger » au lieu du mot « facile » pour exprimer l'image du état facile encore plus. « Shei pa » c'est le sens de « qui a peur ». C'est une question rhétorique. Il signifie fort qu'il n'a pas peur. « Isuo » c'est le sens d'un cap. « Yen yu » c'est le sens du brouillard et de la pluie. Mais du brouillard ici n'est pas du brouillard vrai. C'est pour qualifier de la pluie, pour présenter l'image que de la petite pluie tombé comme du brouillard. Ren ping shen, c'est le sens de malgré. Le sens de la phrase complète est porte une cape malgré du vent et de la pluie. Et le vent de la pluie dans cette phrase signifiait de la difficulté. Ces mots nous montrent une image que les poètes marchent avec une canne et des chaussures en tige est plus facile que monter à cheval.Quelque chose de terrible porte une cape malgré du vent et de la pluie. Juste marche calmement. Cette phrase exprime le poète est de bonne humeur quand envisager la vie. Il contre le vent et la pluie, n'a pas peur de difficultés, envisager la vie et être tranquille. Je pense que vous allez intéresser les poèmes de la dynastie du Song.
Campus 106 FM, Onde de Chine. Merci pour cette page de poésie.
关在大门外，等谁摘不自在，慢慢才明白花已开。 哭出眼泪来，我是好美好美的红蔷薇，不枉春天来一回，绽放到天黑，惹得路人醉，平淡看待自己苦。
À l'écoute de l'émission de Chine. Merci à tous les participants. À bientôt. Zaitian. On se retrouve, quant à nous, non pas le mois prochain ni le mois d'après pour cause de voyage en Chine, bien sûr. Donc, on se retrouve en septembre. Ben oui, premier samedi de septembre pour d'autres aventures sur la Chine et les échanges franco-chinois. Dans quelques instants, ce sera Traverse animée par Françoise Objoin, comme chaque samedi entre 13h et 14h. Ensuite, rendez-vous avec le cinéma et puis les autres programmes que vous pouvez retrouver sur www.campusil.com. Excellente journée, bon appétit et à la prochaine.